La bédosphère est en pleine ébullition. La surproduction mise en place provoque la discorde. Face à ce perfide engrenage, la résistance s'organise. Depuis une base cachée, trois gardiens du savoir décident de guider un public de plus en plus désarçonné.
Les gardiens de la BD, ils sont très forts, tu sais. Faut pas les sous-estimer avec leurs choix tranchés. Les gardiens de la BD, yeah!
Ouais, salut, bonjour à tout le monde.
Bonjour Nico.
Émission spéciale aujourd'hui. Olivier, je te laisse présenter l'ensemble de ta plus belle voix.
Ok. Alors donc vous êtes bien sur PFM 99.9 pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD. Alors aujourd'hui une petite thématique, façon de parler, sur le western. Donc on va décomposer ça à peu près en trois parties. Donc une première partie qui sera plus la partie historique avec Nico et Laurent. Une partie nouveauté avec nous trois. Et un petit élargissement sur tous les casseurs de code du western. Donc on commence tout de suite avec toi, Nico.
Alors ça va être un historique succinct. Moi j'ai retenu une grande série, mais on est obligé de faire un détour par une série qui l'a précédée. Donc j'ai parlé de Blueberry, mais d'abord je vais faire un détour par Jerry Spring.
Pourquoi ? Parce que c'est pas du même auteur pourtant.
Un peu quand même.
D'accord.
Puisque il y a un participant commun aux deux séries. Au départ, Jerry Spring est créé en 1954 par J.G., qui était le grand architecte de la Maison du Puy à l'époque. Il a formé deux, voire trois générations de dessinateurs qui sont passés dans le journal de Spirou, que ce soit Franquin,
Maurice,
ou la génération d'Apiré avec des gens comme Jean Giraud, d'où le lien avec Blueberry d'ailleurs.
Donc il a formé du beau monde.
Oui. Il a formé du beau monde.
C'était un mec qui avait un parcours quand même assez fou parce qu'il était aussi artiste. Il faisait autant des sculptures que.
Ouais, il a voulu faire du cinéma aussi, puisque c'est raconté dans une BD de Yann et Schwartz chez Dupuis, Gringos Locos, qui raconte qu'il plaque tout et qui décide de partir aux États-Unis avec Franquin. Maurice,
puis c'est tout.
Et
puis sa femme et ses nombreux enfants.
Ouais, et pour se faire engager dans les studios américains. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet pour le moment. Donc, J.G. va se faire aider de différents scénaristes, notamment Maurice Rossi, qui fera des Tifs étendus plus tard. Goscinny aussi, il en a fait certains. Mais surtout, il va prendre plusieurs assistants, dont Jean Giraud, qui va se charger de l'ancrage de certaines bandes dessinées. Donc, Jerry Spring, c'est encore du western classique, de chez classique, avec un héros à la forte moralité. C'est toujours le gentil face au méchant. C'est du pur classique. Blueberry, qui arrivera un peu après, va casser ce code-là. Il y a un attrait plus pour le sud-ouest, voire le Mexique, dans les aventures. C'est plus dans ces paysages-là, ça se passe rarement dans les grandes plaines. Et donc, en 1963, Jean-Michel Charlier cherche un dessinateur pour un western apparaître dans Pilote, qui vient d'être créé, journal concurrent de bande dessinée.
De Spirou ?
Oui, journal concurrent de Spirou. Il va taper à la porte de J.G. qui lui dit j'ai Jean Giraud, un petit jeune qui commence, il devrait pouvoir se débrouiller là-dessus, puisqu'il m'a fait un coup de main sur Jerry Spring. Sachant que J.G. filera aussi un coup de main à Jean Giraud, il fera la couverture du premier Blueberry. Fort Navajo. Donc, c'est un échange de bons procédés. Donc, Blueberry, ça commence dans Pilote en 1963. Au total, il y a 24 albums, si je ne me trompe pas. Mais il se peut que je me trompe.
Et tu sais le dernier tome quand il est sorti ou pas ?
Le dernier, ouais.
Ouais.
Oui.
Mais il ne va pas nous le dire.
Non, s'il le sait, il est obligé de le dire. T'as pas envie.
Si, alors il y a un vrai dernier tome qui est sorti en 2005
okay.
Et un faux en 2007.
Pourquoi un faux ?
Donc ça a été vachement étalé, quoi.
Ça a été vachement étalé. Dans le temps, ça s'étale aussi. Je me suis trompé, c'était 28 tomes, pas 24. Dans le temps, ça prend une période de l'histoire de l'Ouest d'une vingtaine d'années. Ça commence en gros après la guerre de sécession. Et ça se finit vers 1880 à la fin de l'Ouest déjà. La série a entraîné une série dérivée, la jeunesse de Blueberry. D'abord avec Giraud au dessin et Charlier au scénario. Et après,
Wilson.
Ouais, Wilson a pris la place de Giraud quand il en a eu marre de faire ça. Et c'est Cortegiani qui a repris le scénario suite au décès de Charlier. Donc, Blueberry. par rapport à Jerry Spring, le vrai changement vient du personnage en lui-même. C'est-à-dire que là où c'était un Jerry Spring restait un héros de catéchisme, Blueberry est un menteur, tricheur.
Je sais pas trop la différence.
Oui, tu peux aussi, mais c'est pas du vin de messe qu'il boit, lui.
D'accord.
Il court après les gonzesses. Il y a un certain attrait aussi pour les Indiens. Il est déjà dans une évolution. Enfin, cette perception-là de l'Indien, c'est plus juste de la chair à abattre. Et ce qui fait que ça fait une première rupture. Et en gros, pour ceux qui n'ont jamais ouvert un Blueberry, c'est un espèce de Yann Solo. Sauf qu'il y a un discipliné.
Yann Solo de quoi?
De Star Wars.
D'accord.
Mais il n'y a pas de Chewbacca.
On peut en trouver un.
Là, je fais une super imitation de Chewbacca, si vous voulez.
C'est vrai. Ouais. Vas-y.
Elle est pas mal.
Là, il s'est fait castrer. C'est
ça, c'est quand il pleure parce qu'Han Solo est mort.
Pourquoi il est mort?
Oh merde.
Il y a personne qui a vu ce film-là. Il a pas marché.
Donc, et en plus de ça, Blueberry, ça reste un lieutenant de cavalerie réfractaire à l'autorité et à la discipline. Ce qui fait qu'il va être souvent en désaccord avec les directives qui lui sont données. Donc, les 28 albums, on peut les couper en plusieurs cycles, voulus par les auteurs. Donc, les 4 premiers albums, 5 plutôt, constituent le premier cycle des guerres indiennes, où on est, malgré tout, ça reste de la BD classique, de western, même si les Indiens sont plus dépeints comme des tueurs assoiffés de sang, ça reste classique sur la vie de la garnison.
Il reste quand même toujours un plus ou moins en conflit avec l'ordre. Ouais. Déjà, dès le début, Blueberry, c'est
un rebelle.
Le personnage est déjà là.
Ouais, bah surtout au début, le premier tome, Fort Navajo commence. On voit un jeune premier sorti de l'académie de West Point qui se retrouve dans un saloon de l'Arizona, je crois.
C'est Top Gun, ça.
Et donc, tu peux dire, ah, ça va être lui le héros. Tu vas dire, ça va être lui le héros cliché, blond, beau, fringant et compagnie. Et il rencontre un gars qui se fait jeter du saloon parce que c'est un sale tricheur et compagnie. Et le vrai héros, c'est lui, ça va être Blueberry. Donc, on va suivre ses aventures dans une première série où il affronte les Navajos de Cochise. Après ça, il y a un album indépendant, L'homme à l'étoile d'argent. Qui est en gros une réécriture de Rio Bravo d'Howard Hawks,
grand John Wayne
et Dean Martin aussi. Après, on réembraye sur un deuxième cycle sur la.
Monsieur Adakut,
ouais, ouais.
Non, je regardais la dernière séance. donc, deuxième grand cycle, le cycle du cheval de fer, où c'est encore une époque de guerre indienne, ce coup-ci c'est contre les Sioux. Mais en même temps, il y a une critique de l'expansion de la colonisation du terrain avec le massacre des bisons pour permettre le passage des chemins de fer. Arrive ensuite un diptyque qui est le premier gros... Enfin, peut-être les deux albums les plus connus, La mine de l'Allemand perdu et Le spectre au bal d'or, où il y a un glissement vers des personnages aux sales gueules et tout. On glisse déjà vers un peu le western spaghetti. Avec forte ambiguïté morale par rapport aux gentils et aux méchants, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Là, déjà, on glisse. Il y a un allié de Blueberry qui va se retrouver dans le mauvais camp à un moment parce qu'il s'est fait manipuler et ça ne lui pose pas de problème. Suite à ce diptyque, il y a le premier complot. Parce que ça se passe aussi. Enfin, ça a été créé à une époque où il y a eu l'assassinat de Kennedy, toutes les théories de complot. Et Blueberry va jouer aussi là-dessus et va se retrouver embarqué dans un complot. Pardon. Il va être impliqué dans les histoires d'assassinat des États-Unis et de recherche de trésors confédérés. Donc il y a d'abord la recherche du trésor confédéré au Mexique. Ça peut rappeler le bon, la brute et le truand par le thème, même si le traitement est moins caricatural. Après, il y a l'histoire du complot, donc pour l'assassinat, il se retrouve là-dedans, où ça peut rappeler les affaires Kennedy. Ça se termine par sa réhabilitation. Charlie meurt. Giraud devient un seul maître à bord de la série. Il lance le cycle Mr. Blueberry, où Blueberry va passer son temps à jouer au poker ou allongé dans un lit à soigner ses blessures. Et là, on est en plein western dit crépusculaire où il n'y a plus rien à dire.
C'est déjà moins noble.
C'est déjà moins noble. Et en plus de ça, il y a un journaliste qui vient l'interroger sur ses premiers, sur ses premières aventures. Et lui, il raconte la vraie version. Et le journaliste dit, je peux pas publier ça, c'est n'importe quoi. C'était pas, il est déçu par rapport au mythe qu'il croyait rencontrer. Du coup, on peut rapprocher ça, et deuxième instant culture, de la citation finale de L'homme qui tua Liberty Valance, de John Ford. Dans l'Ouest, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende.
Bravo.
Voilà. Et pour finir, juste...
C'est pas Nico qui l'a écrit en même temps.
Non.
Quoi? Comme ça, on dirait...
Non, les phrases de Nico sont moins poétiques.
Ouais, on dirait que c'est intelligent, mais...
Et donc, pour finir, donc ça se finit sur ce cycle-là. Et après, Giraud a fait un hors-série qui s'appelle Apache, qui reprend tous les flashbacks du dernier cycle en un seul album, et il a rajouté certaines planches pour faire le liant et un seul album complet.
Mais quand tu parlais justement de l'histoire avec le journaliste, est-ce que c'est pas aussi Giraud qui quelque part crachait un peu sur Charlier?
Non, moi j'ai pas vu comme ça. Il y a eu des problèmes avec si Giraud a craché sur Charlier, c'est quand Giraud le fils Charlier a refusé le projet de Blueberry chamanique qui aurait été dessiné par Book. Et du coup, Giraud s'est vengé et il a soutenu Blueberry, le film, qui est ce qu'il est. Mais ça donne en gros un Blueberry fait par Moebius plus que par Giraud et Charlier.
Oui, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, Jean Giraud est aussi connu sous le nom de Moebius,
qui
est un dessinateur de science-fiction.
Il a d'ailleurs travaillé avec Jodorowsky sur Arcade ou des choses comme ça.
Ouais. Et donc, le vrai intérêt de Blueberry, c'est qu'au fur et à mesure du... Enfin, la série s'adapte aux évolutions du western, d'un western classique. Il passe au western spaghetti et au western genre Sam Peckinpah et vraiment du, pour finir par du vraiment crépusculaire comme les derniers Eastwood ou l'homme qui a assassiné
Jesse James.
Donc Charlier en fait c'était un scénariste qui évoluait aussi dans son temps.
Ouais.
Ouais.
Et il a surtout créé un personnage super moderne avec Blueberry parce que, enfin des personnages comme ça un peu sans morale, buveur et tout. Dans Barbe Rouge il y avait déjà ça. C'était lui aussi au scénario, mais il y avait le contrepoids du fils de Barbe Rouge qui devient rapidement le vrai héros de la série. Tandis que là, Blueberry, ça reste sur toute la longueur.
De toute façon, on voit bien qu'il y a eu une évolution aussi, même dans le trait, entre le premier tome, qui a un dessin très classique, et puis le dernier, on sent qu'il y a une modernité qui évolue en fonction de l'état de la bande dessinée au moment où ça sort. Quoi.
En même temps, il y a quand même presque 40 ans, quoi, du coup, entre les deux. On imagine facilement qu'entre les évolutions de Giraud et Moebius...
Ouais, puis il y a des fois, il y a un peu du Moebius qui vient dans certains...
Ouais, moi je trouve que sur les derniers, ça devient flagrant.
De toute façon, il y a même des Blueberry qui, à l'époque, ont été publiés dans Metal Hurlant, donc c'est que c'était compatible.
Le public, en fait, au début, il peut être plus ado et puis à la fin, ça devient plus adulte ou c'est pas
forcément. Ado, est-ce que les ados sont encore intéressés aujourd'hui par le western?
Je sais pas. Si vous nous écoutez, si vous êtes ado,
laissez-nous un message. Ouais,
alors le numéro de téléphone d'Olivier, c'est.
Vous allez sur la page Facebook des Gardiens de la BD, vous nous laissez un message si vous êtes intéressé par Blueberry.
Voilà. Et par contre, il y a des selon le genre de western que tu vas aimer. Il y a des cycles auxquels tu accrocheras plus que d'autres.
Donc, oui, parce qu'automatiquement, si en plus là tu les lis tous d'un seul coup, automatiquement tu n'auras pas l'évolution qu'il y a pu y avoir sur une période de 40 ans.
Non.
Tu vas tout te prendre dans la gueule d'un seul coup.
Il me semble là même que les éditions d'Argo ont projeté de faire une intégrale ou elle est peut-être déjà.
Elle a déjà commencé, je crois.
Il me semble qu'il y a 5 tomes en intégrale donc. Ça peut, pour faire un rattrapage, c'est quand même plus facile, quoi.
Ouais, mais ils les ont mal coupés.
Bah oui.
Parce qu'ils suivent pas les. Ils ont mis une tomaison fixe par truc, ce qui fait qu'ils suivent pas les cycles.
Oui.
Ils ont fait un truc totalement idiot.
C'est.
Ouais. Pas l'œuvre finale.
Ouais, dans chaque tome, je sais pas, ils mettent 4 ou 5 albums, mais quand il y a un cycle 6, ben, tu dois attendre le tome suivant pour avoir la fin.
Ou tu vas à la bibliothèque.
Oui, voilà.
Ouais.
Donc moi j'ai fait le tour sur Blueberry.
On se fait une petite pause musicale.
Petite pause musicale.
Je te laisse annoncer Nicolas. C'est toi qui choisis.
The Last Shadow Puppets, The Age of Understatement.
your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder.
Donc vous êtes bien de retour sur PFM 99.9 pour la suite des Gardiens de la BD spécial western. Alors donc pour faire la transition avec le passage de Blueberry, on va donc parler maintenant de Book qui avait donc failli travailler sur l'adaptation
sur Blueberry. Sur Blueberry, Blueberry 1900, ça devait s'appeler.
Blueberry 1900. D'accord, donc okay. Laurent, tu peux nous parler de Bonne Sœur ?
Oui. Alors Bonne Sœur, c'est une série en 9 tomes parue entre 2001 et 2013 de Alexandro Jodorowsky et de François Bouc. Les 7 premiers albums de Bounceur sont aux éditions Humanoïdes Associés et les 2 derniers sont sortis récemment aux éditions Glénat.
Et pourquoi ça a changé d'édition, de maison d'édition ?
Bah parce qu'en fait Jodorowsky il était plus super copain avec les Humanoïdes Associés et il a dit bon ben je vais chez le plus offrant, et le plus offrant c'était Glénat. Sauf que l'offre finale de Glénat c'était aussi le rachat des 7 premiers albums. Et les humanoïdes n'ont pas, à première vue, voulu ça, quoi. Donc, les 7 premiers tomes de Bounceur sont chez Humano. D'accord. C'est le petit nom des éditions humanoïdes associées. Ouais.
Voilà. Mais là, maintenant, c'est l'humanoïde, non ? Il est tout seul, le gars.
ils parlent de ça, de faire des l'humanoïde tout seul. Voilà.
L'humanoïde dissocié.
Dissocié, ouais.
bon, alors, donc... Vous voyez, j'ai bien compris, Bounceur, c'est donc un western avec un héros principal qui s'appelle Bounceur.
Ah, d'où le titre.
Ouais, mais tu sais ce que ça veut dire, Bounceur ?
Oui, je sais ce
c'est
que ça veut dire.
C'est qui a bandit.
Non, mais moi, c'est ça que j'aime bien.
Non, c'est un videur.
Ouais, c'est ça.
C'est un quoi ?
C'est un videur.
Un videur.
Ouais, c'est ça.
Oui, parce que quand tu balances, ça rebondit.
Mais c'est ça que j'aime bien, tu vois, je suis nul en anglais et avec des titres comme ça, ben, au moins, quand je suis à l'étranger, ben, je peux sortir des mots que j'ai pas l'habitude de sortir. Après, il faut trouver
ça peut te servir si un jour tu vas aux États-Unis.
Ah, c'est ça.
Ce qui n'est pas prévu.
Pas du tout. Bah, plus maintenant, hein. Tu vois, j'y suis allé au mois de mai.
Bah, c'est... voilà. T'as interdit de séjour maintenant.
Et tu t'es pas fait vider.
Bah, si, il est revenu, ils en ont pas voulu.
Bah, après, il faut quand même trouver un sujet de discussion où placer Bounceur.
Ouais, c'est vrai.
Ou Undertaker, par exemple. Ouais. Tu vois, je sais pas.
Bah, au catch, Undertaker, non.
Ah, oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Bon, donc, revenons à Bounceur. Bounceur, on peut dire que ce monsieur, il est adroit, car il lui manque un bras. Et pourtant, c'est la meilleure gâchette de tout Barrow City. C'est la ville où il crèche. C'est sûr, apprendre à tirer avec les talons au-dessus du vide, ça donne un petit peu envie de bien savoir tirer. Il assure donc la sécurité du salon Inferno, où très régulièrement des personnes viennent le déranger, et pas forcément pour lui payer un coup à boire. En règle générale, la mort suit de près les personnes qui sont chères aux manchots, ce qui provoque très régulièrement des vendettas, où Moonsor sort vainqueur en y payant toujours le prix. Dans cette série, Jodorowsky nous montre ce qu'il y a de plus noir dans le Far West. Vous n'échapperez donc pas à de nombreux viols, multiples massacres, d'humiliation. Il y a même un passage de sadomasochisme. Nico, je te le conseille, je pense que ça peut t'intéresser. C'est dans le tome numéro 5, c'est page 35-36. Je l'ai noté pour toi.
Merci. Ah, est-ce qu'il fait pas
on
ne
saura
pas,
pas ce que c'est alors.
Non.
Donc on ne connaîtra rien de la vie sexuelle de Nico, c'est dommage.
Non, est-ce qu'il fait le coup de pas de bras, pas de chocolat?
On parle rarement de friandises dans ce western. La série, elle se compose de cycles, et là, il y en a 4. Voilà. Le premier cycle correspond aux deux premiers tomes. Il débute ainsi. On est perdu en pleine plaine. Des cavaliers arrivent. Ils arrivent vers une petite bâtisse où vit un prêtre, sa femme indienne et leur jeune métisse. Ces cavaliers se pointent là pour lui réclamer un diamant perdu depuis des années. Il y a eu la guerre de sécession entre deux. Du coup, ils reviennent.
D'accord. Donc on suppose qu'il l'a trouvé, le diamant.
Peut-être. En tout cas, très vite, l'échange tourne mal, l'enfant arrive à s'échapper de la tuerie et il file voir un vieil ami de son père, le Bouncer. C'est là qu'on fait la rencontre de ce monsieur. Très vite, on découvrira que ce diamant est lié à la jeunesse de Bouncer. Il prendra sous son aile le jeune orphelin pour préparer sa vengeance. Peut-être on saura aussi où est caché le diamant. Le deuxième cycle, ça correspond aux tomes 3 et 5. C'est le seul cycle qui est en 3 tomes. Un petit peu faiblard d'ailleurs ce cycle-là. Ça reste quand même de très bon niveau, mais c'est un petit peu celui qui est en dessous des autres. Dans celui-ci, en fait, on voit les notables de Barrow City se faire étrangement tuer, un à un, par un serpent venimeux, venant les déranger en pleine nuit. La Bouncer va plus ou moins enquêter sur ces crimes-là. Dans le troisième cycle, ça correspond au 6 et 7, le cœur d'artichaut de Bouncer est mis à rude épreuve.
C'est la séance sadomaso.
C'est le fameux, ouais. Bah ouais, non, c'était donc pas dans le tome 5, c'est dans le tome 6. 34-35, Nico.
Ok.
Le dernier arc qui est sorti chez Glénat quelques années après.
Il y a des Indiens.
Bah, il y a un arc, c'est français.
en fait, je veux pas trop pourrir l'intrigue de Bouncer, mais c'est vrai qu'il y a des Indiens. Bouncer est très lié à cette communauté. On découvrira beaucoup dans le second cycle, dans le deuxième cycle, et je préfère pas trop en parler. Voilà. Mais en tout cas, la Majem est très très présente et omniprésente dans cette série-là. Dans le quatrième cycle, pour revenir à celui-ci, et ben en fait, des amis de Bouncer sont tués devant ses yeux. Et là, en fait, il va encore une fois de plus se venger, et en fait, cette vengeance va l'amener dans une prison où normalement on n'a pas le droit de revenir. C'est une prison en fait qui est desservie que par une voie de chemin de fer. Il n'y a rien d'autre à l'horizon. Et Bouncer va aller rechercher le tueur de ses amis là-dedans. Bref, on est loin du Far West, de Retour vers le futur. Donc on peut éviter de donner ça au petit neveu qui adore jouer au cow-boy à la maison. Voilà. Mais pour les grands, ça restera dans le genre une très bonne référence.
Voilà. Un peu comme tout ce que fait Jodorowsky, j'ai rien qui me vient en tête qui soit pour un adulte, un public jeune.
Ouais, tout à fait. De mémoire, je pense pas non plus, Nico. Si toi tu.
Notre Bible.
Aleph Tôt, le début, ça allait à peu près, non?
Oui, alors, ouais. Les deux premières pages, ouais. Ok, non, merci. Mais, merci
non, mais c'est vrai que Jodorowsky, c'est un monsieur qui adore la perversion.
Oui.
Le côté malsain.
C'est un artiste.
C'est un monsieur qui a 87 ans, hein, donc il a quand même plus d'une série à son actif. Il a fait, dans ses séries notables, un cal.
Avec Moebius.
Avec Moebius, donc on en parlait tout à l'heure.
C'est un réalisateur aussi.
Ouais, tout à fait.
Il a fait Borgia avec Manara.
Ouais, ouais. Ouais, Lama Blanc.
Ça, c'était à peine à temps.
Lama Blanc, Juan Solo, on vous conseille ces titres-là. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a toujours une partie mystique, toujours dans ses œuvres.
Ouais, mais il n'a pas fait des bouquins sur le tirage des cartes ou un truc comme ça?
Ah, peut-être. Mais je crois que ça fait De toute façon, on voit que c'est un mec qui est un peu perché, hein, de toute façon. Heureusement qu'il y a Book. Book, c'est un auteur lillois sur le dessin de Bunser. Il a 60 ans. Et on sent que ce type-là, il prend le scénario de Jodorowsky et puis quand même, il l'amène quand même dans un truc un peu plus réaliste, en tout cas plus western spaghetti, ben, bref, un truc un peu moins fou et farfelu. Parce qu'en fait, souvent, Jodorowsky, ça part un peu en vrille à la fin de ses scénarios.
Bah, en plus, le style de Book est quand même assez réaliste, chargé. Et...
Ouais, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui nous écoutent qui... j'espère que vous nous écoutez, qui ont déjà vu son dessin, parce que c'est un mec de la région. Il fait des campagnes d'affichage un peu partout.
Bah, il avait fait les tulipes, je sais pas quoi, là, pour Lille.
Ouais,
Lille 2004.
Ouais, il avait fait aussi, il me semble, la fontaine en face de la gare de Lille, une sculpture aussi.
Ah, bah, c'est ça, mais ils les ont déplacés maintenant, et c'est entre Lille Europe et Euralille.
D'accord, ouais, ok. Et bref, normalement, si vous voyez son dessin, ben, vous direz « Ah, je l'ai déjà vu ». Il a fait aussi d'autres séries. Les aventures de Jérôme Mouchereau, c'est une de ses premières. C'était d'abord un essai humoristique, complètement farfelu, avec des dessins pleines pages, totalement dingues. Maintenant, il fait surtout beaucoup de trucs réalistes. Il a fait Les Janitors, aux éditions d'Argo.
Il a fait Le Procès du Carlton aussi.
Ouais.
Enfin, il a couvert Le Procès du Carlton pour Le Monde.
Donc, c'est pas vraiment de la bande dessinée.
Little Tulip.
Little Tulip. Il avait fait précédemment La Bouche du Diable avec Charine aux éditions du Lombard. Ce sont des one-shots hautement conseillables. Bouche du Diable et Little Tulip. Des très très bons polars. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Bunser.
Bon, avant de passer à la suite,
c'est-à-dire la partie, disons, plus nouveauté.
De la partie où tu vas parler un peu et justifier ta présence.
Ah, on va te poser des questions.
Ouais, vous allez me poser des questions.
Et on va tenter le quiz musical.
Un quiz musical.
Ouais, de quoi allons-nous parler?
De quoi allons-nous parler?
Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton qui furent l'incarnation du mal et que
ce n'est pas TFN.
À tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école.
À la place de crayons, ils avaient des limes.
Ma mère, tu sais, mais elle me faisait écouter ça à longueur de.
En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas.
Tu vois, avec les cassettes auto-reverse, elle appuie sur l'auto-reverse et puis après on se réécoutait la musique.
Donc je coupe et comme vous l'avez compris, on va passer à Lucky Luke.
D'accord, donc on change l'ordre.
Ah, donc c'est...
bah, c'était ça, non?
Donc on passera aux tuniques bleues après.
Non, mais je t'expliquerai. Okay.
Explique à tout le monde.
C'est parce que les tuniques bleues sont nées du départ de... Enfin, je peux faire la tunique bleue avant, mais les... Maurice s'est engueulé avec Dupuis parce qu'il voulait des albums en dur. Dupuis ne faisait que du souple. Du coup, il s'est barré chez Pilote. Les tuniques bleues ont été créées à la demande de Dupuis pour avoir une série western.
D'accord.
D'où la logique de mettre Lucky Luke avant, même si tu parles du dernier.
Ouais. Ok, donc alors... donc moi, en effet, je vais parler du dernier...
Ça, pour se rendre intéressant, ouais, tu vois, c'est fou.
Je vais parler du dernier Lucky Luke, et plus précisément de L'Homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, donc, qui est paru aux éditions Lucky Comics. Alors, Mathieu Bonhomme, donc, on l'a découvert en 2003 avec L'Âge de Raison, et il a principalement collaboré, enfin plusieurs fois en tout cas, avec Lewis Trondheim sur Texas Cowboy, notamment, sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard dans l'émission, chez Dupuis. Alors, donc l'histoire de L'Homme qui tue à Lucky Luke. Donc en fait, l'album va commencer comme le laisse présager le titre, avec le corps de Lucky Luke dans la boue, suite à ce qu'on va supposer être un duel. Donc dès la deuxième page, en fait, nous allons revenir en arrière lorsque Lucky Luke arrive à Froggy Tarn. Très vite, il va en fait rencontrer donc le shérif James Bone et ses deux frères, qui ne sont pas particulièrement ni intelligents ni particulièrement sympathiques.
Bah, on sent aussi qu'ils sont jeunes, oui. Donc ils ne sont pas forcément bons pour le rôle.
Le dernier est un peu foufou.
Ouais, c'est ça.
Un peu simplé, un peu foufou. Donc, dans la mesure où, en effet, le shérif, donc le plus jeune, est particulièrement incapable, Lucky Luke va se retrouver engagé par la population pour retrouver l'or qui a été volé par un mystérieux indien lors de l'attaque de la diligence. Donc, sur l'histoire, Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'en fait, on peut dire qu'elle débute en fait de façon plutôt banale, mais finalement, ça va se révéler beaucoup plus mature que ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un Lucky Luke par rapport à ce que faisait Maurice habituellement. Donc en fait, la principale différence, on la comprend vite quand on voit le sous-titre de l'album, c'est-à-dire l'hommage de Mathieu Bonhomme à Maurice. En fait, c'est plus du coup un hommage au dessinateur qu'un hommage au personnage. Et dans ce contexte, Lucky Luke, c'est plus l'icône qui va nous guider au long de l'intrigue, qui va nous permettre aussi de rencontrer des personnages qui sortent des albums précédents, tout en cherchant désespérément, et là ça va être un petit peu le running gag de l'album, il va chercher désespérément quelque chose à fumer parce qu'il n'arrive pas à avoir une seule cigarette pendant tout l'album.
C'était la volonté, Bonhomme en fait il a démarré cet album là en se disant mais pourquoi il a arrêté de fumer du kick. C'est il a voulu apporter sa réponse.
Il est passé en fait de la cigarette au brin d'herbe et sans vraiment avoir d'explication du coup dans les albums.
Donc, ça t'arrivera peut-être un jour.
Voilà. Ouais, peut-être un jour. Et donc là, bien sûr, faut faire attention. Hein, fumer tue, donc faut pas l'oublier. Et donc là,
l'alcool avec modération.
On le dit pour après. Et 5 fruits et légumes. et donc en fait, on va enfin savoir pourquoi Lucky Luke a arrêté de fumer. Donc Lucky Luke en fait.
Et c'est son frère Mucky.
C'est son frère Mucky. Lucky Luke donc reste bien.
S'il y a des muqueuses.
il reste bien reconnaissable tout au long de l'album et le style de Bonhomme en fait reste assez proche de Maurice, même si finalement il va pas du tout se trahir dans l'album et ça reste clairement marqué comme étant du Mathieu Bonhomme. On pourrait même dire en fait que l'histoire ne déparerait pas du tout dans les pages de Texas Cowboys, si ce n'était en fait la différence de couleurs en fait, où on a plutôt des couleurs sombres dans Texas Cowboys et des couleurs plutôt criardes dans la version de Lucky Luke.
Ce qui est assez normal finalement.
Ce qui est assez normal puisque de toute façon c'était aussi le choix de Maurice d'avoir des couleurs assez flashy. Donc c'est.
Toi Nico, tu sais peut-être ça vu que tu es notre savoir, ouais. Notre fille de science.
Notre Père Fouras.
Père Fouras.
Tu peux savoir quoi?
Oui, la question, je ne l'ai pas oubliée. Ça va, c'est bien. Il était daltonien, Maurice, pour déjà aimer les Dalton et surtout pour faire des couleurs aussi criardes dans ses albums.
Non, mais c'était pas à cause des dessins Anna Barbera et compagnie déjà à l'époque où tu avais des trucs des couleurs criardes et compagnie.
Je crois que c'était vraiment une volonté en fait qu'il avait de mettre des couleurs, notamment uniques sur un personnage.
Savoir quand Joe Dalton est rage de colère. Dans les cases de Lucky Luke, eh ben, il est rouge, rouge total.
C'est ce qui venait de l'animation, où ils voulaient. Enfin, ils ont tous tourné cette génération-là autour du dessin animé et compagnie, donc ça fait plus les codes des dessins animés, même ceux de l'époque. Moi, je voyais plus comme ça. Maintenant, daltonien ou pas, je ne sais pas.
Tu ne sais pas, tu me déçois, c'est tout.
Et donc du coup, moi, c'est pour ça que j'ai choisi la version noir et blanc. Parce qu'en fait, du coup, ça enlève.
Non, mais t'es dégueulasse. Ouais, la version, elle est épuisée.
Elle est épuisée. Je suis désolé.
Quand t'as pris d'or sur internet. Tu veux faire aller la spéculation, c'est ça?
Il fallait l'acheter quand elle est sortie. Et donc, en fait,
tu cherches à revendre ta version noir et blanc sur eBay, c'est ça?
Même pas, je la garde.
Olivier vend la sienne et qu'il a dédicacé lui-même.
Si vous voulez, on a son adresse. Hein, si...
Et en fait, donc, la version noir et blanc, ça va totalement atténuer le côté cartoon de la série d'origine. Et finalement, finalement, on se retrouve avec un album qui peut plaire autant, je pense, aux grands fans de la série qu'à des gens comme moi qui sont pas particulièrement accros aux personnages à l'origine. Parce que là, on se retrouve vraiment avec un bon western et du coup avec cette fois-ci des méchants que moi je trouve assez méchants, en tout cas pour un album qui pourrait être destiné à des enfants.
Après les méchants, ils restent quand même assez gentils. On reste quand même dans une vague classique de Lucky Luke.
Ouais, enfin c'est.
Bah, ils sont gentils. Bon,
les trois frères, ils sont pas. C'est pas eux les vrais méchants de la BD.
Non,
c'est ça, c'est ça l'histoire.
Mais on n'en a pas parlé du vrai méchant. Donc,
ouais, bah non, on en
parlera
pas.
On va pas le dire. Bah non.
Ce Lucky Luke-là, t'as donné envie d'approfondir vers Maurice ou bien tu te dis non, c'est peut-être trop enfantin
pour moi.
Non,
ça m'a pas donné envie de lire les autres Lucky Luke.
D'accord.
Plus par contre de rechercher d'autres choses de Bonhomme.
Ah bah Bonhomme, c'est un grand dessinateur.
Enfin, moi je le connaissais déjà sur Texas Cowboy, mais.
Bah sinon t'as Esteban,
c'est ce que j'ai vu en 5 tomes, je crois.
Ouais. En fait, c'est fini en 5 tomes, même si c'est une fin ouverte, c'est un récit d'aventure d'un gamin, un Indien. Bon, on s'éloigne.
On s'éloigne.
C'est un Indien. On en reparlera de Matthew Bonhomme.
On s'éloigne. Donc là, je pense que soit on fait une petite pause musicale ou tu veux directement attaquer avec les tuniques bleues pour faire la liaison.
Non, on va faire les tuniques bleues vite fait.
C'est con, j'avais envie de danser.
Bah, tu danseras après, tu peux danser là, tout ça. Comme dans les Lucky Luke, le gars qui danse derrière le saloon.
Ah, il est forcé par.
Alors, on t'écoute, Nico, pour les
Tuniques
bleues.
Donc, ouais, juste vite fait, les Tuniques bleues, parce que ça reste une grande série en vente encore, mais peut-être plus trop en qualité.
Une longue série aussi. Peut-être trop longue.
Peut-être la plus longue, non en termes de tomes.
Actuellement, peut-être, ouais.
Ouais,
Ricochet, c'est fini parce que l'auteur est décédé il y a quelques années.
Il y a combien de tomes?
Je sais pas.
Une soixantaine, je crois.
Ouais, une soixantaine, 62, je dirais.
Ouais.
Et en fait,
ouais,
c'est marrant parce que.
Ouais. Il y a plusieurs séries aussi.
Ouais. Et 62, et t'imagines que les éditions Dupuis en ont deux d'avance. Donc, même après le décès, j'espère le plus lointain possible des auteurs, ils auront quand même de l'avance encore après. Il y aura des albums posthumes, normalement.
Donc, ouais, les Tuniques bleues, comme je disais tout à l'heure, c'est une commande des éditions Dupuis pour Gardin Western, parce qu'à l'époque, ça faisait vendre le journal de Spirou suite au départ de Maurice chez Pilote. Donc, au scénario, c'est Raoul Covin. Enfin, c'était et c'est toujours Raoul Covin. Au départ, au dessin, c'était Salverius.
Un dessin grené, très, très cartoon.
Et c'était que humoristique à l'époque. Et quand Salverius est mort, c'est Lambil qui a repris la série. Et la série a évolué vers quelque chose d'un peu plus réaliste et moins cartoon et un peu plus sérieux malgré tout. Tout en continuant à brasser les mêmes thèmes, le pacifisme, l'absurdité de la guerre, l'antimilitarisme. Et voilà. Et la chose aussi qui a changé suite à la mort de Salverius, c'est qu'au départ c'était assez varié au niveau des destinations où ils allaient. Et là, depuis que c'est les deux mêmes, Covin et Lambil, ça reste concentré trois albums sur quatre sur la guerre de Sécession en fin de compte. Ce qui fait que ils ont dû faire à peu près toutes les batailles et se balader un peu partout dans les États-Unis à chaque fois les deux, parce que c'est l'histoire de deux personnages. Engagé
ça,
de force.
Ça s'appelle comment?
Blutch, c'est le petit couard qui pense qu'à déserter et Chesterfield, le sergent.
On ne fait pas de
Cuba. Oui, il a encore le droit. Oui. Bientôt changé celui-là.
Avec modération. Non, c'est ça?
Non, ça tue.
Ah,
ça tue.
Ah oui.
et malgré tout, même si la série a fortement baissé de qualité depuis surtout une dizaine d'années, je trouve. Ça reste une BD typique à lire l'été.
Albums à suivre, Nicolas ?
Non, il y a peut-être un diptyque sur les 60, mais non, c'est toujours des. C'est un des problèmes du truc aussi, c'est qu'en 48 pages, généralement, il se passe quelque chose qui change complètement l'état d'esprit des deux personnages. Ça pourrait être des fois intéressant d'étendre ça sur deux ou trois tomes, mais non, à la fin des 48 pages, tout redevient. Tout est remis normalement comme si c'était rien passé.
Et quand tu dis que ça baisse un peu en qualité, c'est quoi? C'est Covin? C'est Lambil? C'est l'ensemble?
Moi, je trouve que c'est surtout Covin.
D'accord, le scénariste.
Bah, puis après, le dessinateur, ça va encore vu son âge avancé. Mais,
Bah ouais, je sais pas du tout quel âge ils peuvent avoir ces gens-là.
Ouais, entre 75, vers 75, je dirais. Ouais.
Bah, la dernière fois qu'il était venu à Anzin.
Anzin, c'est quoi? Tu peux nous expliquer?
Le festival de la bande dessinée dans un Saint-Aubin, à côté d'Arras. Et Lambil était venu l'année dernière, ou il y a deux ans? Il y a deux ans, il me semble.
Ouais.
Il y avait reçu
je pense que Lambil, même quand il était jeune, il paraissait vieux.
Non, il y a des gens comme ça.
Oui, parce que dans son autobiographie, sa fausse autobiographie, Pauvre Lambil, il est déjà vieux. Pourtant, les BD, elles ont quoi, 40 ans?
Ouais, parce que je me permets de le dire, parce que je pense qu'il s'amuse de ça, Lambil. Ouais.
Peut-être.
Et dans les Tuniques bleues, des fois en fait, l'histoire se passe avant, après ou jamais. Ça se passe toujours dans la même style. Est-ce qu'il y a des albums qui expliquent ce qui s'est passé après la guerre?
Il y a deux trois albums. Non, il y a des albums qui se passent avant.
D'accord.
Après, non, c'est toujours en même temps. En fin de compte, quand ils vont en permission, au lieu d'être sur les champs de bataille de la guerre de sécession, ils vont en Arizona, dans le fort où ils sont censés être en
D'accord,
réserve.
Donc on ne sait pas s'ils vont survivre à la guerre de sécession. Sacré retournement de situation. Peut-être le dernier album.
Et peut-être que.
Non, mais après. Et par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est une série qui fait partie des références de beaucoup de dessinateurs. Que ce soit Blutch, rien que par le nom. Larsenet, aussi. Au moins,
oui, c'est
vrai,
la partie.
Il faut savoir que c'est.
Des choses comme ça,
c'est un blockbuster, Twin Globe, pour les éditions Dupuis. Gros tirage quand même à chaque sortie de bouquin. Voilà.
Mais du coup, moi je serais pas plus surpris qu'à un moment il y ait sur le modèle du Spirou un tunique bleu vu par.
Et bah, il me semble que c'est prévu. Il va y avoir normalement un album collectif.
Ouais, mais moi il y a un collectif
qui arriverait pour là tout proche, la fin d'année. Là.
Mais des one-shot carrément. Parce que Larsenet voulait en faire un à un moment. J'avais vu passer une interview de lui une fois.
D'accord.
Voilà, donc repose musicale.
J'ai envie de danser.
Eh ben, tu vas danser une fois que j'aurai trouvé la bonne souris.
Allez, j'échauffe les pieds.
Et voilà, allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Et on écoute quoi alors, Nico?
Jamiroquai, Space Cowboy.
Ah,
merci. Yeah.
planetary level.
Et oui, vous êtes de retour donc sur PFM 99.9 pour les gardiens de la BD spécial western. Donc le temps que Laurent redescende du plafond, on va discuter avec Nicolas des casseurs de côtes, tous ceux qui ont un peu renouvelé et élargi ce qu'on appelle le western en fait. Et on va commencer avec Texas Cowboy.
Oui, alors ce sera pas tous ceux parce qu'il y aura juste une sélection de deux séries. Texas Cowboy et ce dont on parlera après.
Oui.
Texas Cowboy, donc c'est encore Mathieu Bonhomme au dessin.
Mais en fait, c'est une spéciale Mathieu Bonhomme presque.
Presque.
au scénario, c'est Lewis Trondheim, qui est un des membres fondateurs de l'association Maison d'édition alternative.
On peut dire que c'est le nouveau Covin.
Et qui, plus il vieillit, plus il devient mainstream.
C'est ça. Ouais.
En gros.
Et puis qui publie beaucoup de scénarios pour tout le monde.
Ouais.
Plus ça va. Plus ça devient un scénariste parce que c'est un mec qui est dessinateur aussi à la base.
Oui. À la base. Donc, Texas Cowboy, c'était pré-publié au départ dans Spirou uniquement pour les abonnés.
Pour l'élite.
Ouais. Sous forme de fascicules. Et déjà là, on est dans la référence au western. Parce que c'était des romans feuilletons, enfin ce qu'on appelle romans feuilletons chez nous, c'était des dime novels aux États-Unis. C'était des fascicules.
Des nouvelles pour quoi, un cent?
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et ça correspond au roman feuilleton.
En euros, ça fait combien, un cent?
Ah, c'était. Tu m'aurais demandé en ancien franc, je te l'aurais dit. Mais alors, franchement, en euros.
Et donc, mais c'est comme ça que il y a eu la naissance des mythes de l'Ouest. Il y a eu Buffalo Bill, qui a eu toute une série de fascicules comme ça à l'époque. Mais c'est dès la fin du 19e siècle que ça existait, ces trucs-là. Et donc,
t'as connu toi?
Non. Toi, peut-être. et donc ils reprennent cette forme-là avec des jeux de mots où ils sont amusés à traduire leurs noms. Je sais plus ce que ça donnait, Trondheim, mais enfin mettre ça en anglais. Dupuis, c'est pareil. Et le problème, c'est que quand c'est sorti en album, au lieu de garder l'idée de fascicule sous forme de coffret et faire un bel objet référentiel jusqu'au bout, ils ont sorti ça sous forme d'un album normal, enfin normal.
Petit, plus petit format.
Ouais. Mais moi, je trouve que ça aurait été marrant qu'ils aillent jusqu'au bout du truc. Et alors, après l'histoire vite fait, c'est un journaliste qui débarque dans une ville du Far West.
C'est un journaliste de où ?
New York.
De la côte Est.
D'accord.
Qui a certainement lu les fascicules dont on parlait avant, qui veut découvrir le Far West, comme il pense qu'il existe.
De mémoire, il me semble qu'il est quand même un peu envoyé là-bas, non ?
Je sais pas. Il est envoyé là-bas,
je
oui.
Je pense
oui.
qu'il est...
Sinon, ouais, il est envoyé là-bas, mais lui
il est envoyé
a une idée,
là-bas par son patron, on croirait même... Jonah Jameson, ouais. Son patron, quand il se met en colère.
Et son patron, on pourrait même croire qu'il envoie au casse-pipe.
Ouais, mais lui, il y arrive avec une idée préconçue, il va vivre l'aventure.
Ouais.
Et le problème, c'est qu'il arrive trop tard. Le temps du Far West et de la conquête de l'Ouest est terminé. Même si c'est pas encore des villes industrielles, il n'y a plus du tout les mêmes enjeux auxquels il croyait voir. Dans ce sens-là, ça rejoint le dernier cycle de Blueberry, Mr. Blueberry, où il n'y a plus rien à faire et l'aventure est finie.
Il y a quand même encore des prostituées.
Et puis c'est quand même
il y en a encore aussi maintenant, pourtant des Flofar West.
Et c'est aussi un dandy chez Ebouzeux. Hein. Donc il va chercher une aventure, mais ça reste un dandy.
Mais du coup, ça m'a fait penser. Je me suis dit que Trondheim réutilisait le scénario de l'île Bourbon, mais il l'adaptait du récit de pirates.
L'île Bourbon, c'était quoi?
C'est la même histoire avec des pirates.
Et c'était de qui?
C'était de Trondheim et de. Je sais plus.
D'Apollo.
D'Apollo, et c'était chez Delcourt.
Mais là, le scénario, c'était Apollo qui l'avait fait.
Ouais, mais ben, c'est à peu près la même histoire. T'as un gars qui arrive sur un territoire fantasmé par tous des mythes et compagnie, et il arrive trop tard, tout est fini. Il n'y a plus rien à faire, sauf raconter les légendes. Et Texas Cowboy, c'est un peu, enfin, moi, je l'ai pris comme ça.
Moi, ce que j'avais bien aimé dans Texas Cowboy, donc le il y en a deux, hein, et ce sont des one-shot à chaque fois, c'était au niveau de la narration. Parce qu'en fait, quand on lit chaque chapitre, parce que c'est chapitré, comme tu disais, et donc le chapitrage est tiré à la route dans le bouquin, c'était au niveau de la narration, elle n'est pas linéaire.
Non. En fait, comment dire, parce qu'en plus on a à chaque fois la couverture, en gros, je suppose, du fascicule. Et c'est vrai que le fascicule suivant ne débute pas là où s'est arrêté le précédent. Et en fait, on reprend sur totalement quelque chose de différent.
Et donc, petit à petit, les pièces du puzzle s'imbriquent les unes avec les autres et on commence à comprendre totalement de quoi il s'agit et on se fait avoir. C'était très bien foutu.
Et c'est vrai que par contre, ce qui est un peu surprenant quand on voit que c'est, comment dire, mis en fascicule dans Spirou, c'est que moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez adulte. À la fois et dans les sujets abordés et dans la violence et dans le langage. Alors, c'est peut-être moi qui vieillis mal. Mais...
je pense que Spirou, il se crée un nouveau lectorat. Un lectorat plus âgé, qui a été élevé au biberon dans Spirou Magazine.
Les adolescents.
C'est ça. Et qui continue à acheter
non,
son Spirou.
Non, les adolescents, c'est les jeunes cons.
Donc, oui, mais les vieux cons aussi.
Et puis peut-être les gosses maintenant, ils
sont Mickey, je pense.
Ils sont peut-être plus lecteurs aussi de ce genre de récit-là.
Ouais, mais après, je pense que les moins de 10 ans, ils sont peut-être plus vers le journal de Mickey que vers Spirou.
C'est vrai.
Parce que, enfin, c'est pas le sujet, mais dans D'Ours, c'est quand même super limite pour des gamins.
Ouais, tout à fait. On doit parler encore de...
il nous reste 5 minutes pour parler du dernier titre, donc je vous laisse choisir lequel vous voulez prendre.
Allez, on y va. Alors, donc, dans les casseurs de code du western, donc, moi... Mon préféré, c'est The Walking Dead.
C'est pas du western.
Évidemment que si, c'est du western. Alors
n'importe quoi.
Alors qu'est-ce que c'est?
Toi, tu vas te faire taper une fois parce que t'as Lucky Luke en noir et blanc. Je répète. Et tu dis que un truc de zombie, c'est du western.
Mais non, le héros, c'est un shérif.
Ouais. J'ai 5 minutes pour te prouver que The Walking Dead, c'est un western. Alors, donc, l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui n'ont pas vu les feuilletons, qui n'ont pas lu les bandes dessinées. Donc, c'est une série de Robert Kirkman, Tony Moore et Charles Adlard. L'histoire en elle-même. Lorsque Rick va se réveiller dans son lit d'hôpital, donc après s'être fait tirer dessus, il va en fait découvrir que le monde a été pris d'assaut par des zombies.
C'est à notre époque?
C'est à notre époque. Tout à fait. C'était à notre époque, comme tous les bons westerns. Donc, il va en fait partir à la recherche de sa famille, puisqu'il a une femme et un fils. Et en fait, il va se retrouver plutôt à être le meneur des survivants dans le monde dévasté par les zombies. Donc, ça, c'est en gros l'histoire de départ. Après, c'est donc... Là, à l'heure actuelle, on est déjà à 25 tomes de paru, deux séries télé, pas mal de choses.
Et moi, je suis assez d'accord avec Olivier, parce que tu remplaces les zombies par des Indiens, et t'as exactement la même histoire.
Voilà.
Ouais, mais donc, les Indiens, alors, ça parle quand même.
En fait...
Bah non, tu les comprends pas.
Pourquoi c'est un western pour moi? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le personnage principal, c'est un shérif. Le shérif, bien sûr, c'est une des figures récurrentes du western. Tout à fait. Dès le premier album, on voit Rick qui, lorsqu'il tombe en panne d'essence, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cheval et on le voit partir au galop. Ensuite, comme dans La Conquête de l'Ouest, on va suivre en fait les aventures d'un groupe qui va chercher à s'installer dans un environnement désert et hostile. Alors, ok, il n'y a pas d'Indiens, mais on a des zombies. C'est à peu près la même chose, voire même des très méchants. Les très méchants êtres humains. Et là, franchement, je vais vous dire, vous seriez content d'encontrer les Indiens.
Tous les Indiens qui t'écoutent, ils vont te tuer aussi. Tu fais que des...
Bah, de la même façon, dire des Amérindiens, déjà.
De la même façon, en fait, on a à chaque fois l'installation de nos héros, donc dans des prisons ou dans des villes, et en fait, à chaque fois, ça va avoir, qu'est-ce que ça nous rappelle ? Les forts. On se retrouve toujours avec des cités qui sont en fait complètement entourées pour empêcher l'entrée, donc pas des Indiens, mais des zombies.
Mais c'est parce que c'est le mythe de la frontière qui est ancré chez les Américains. Il y a certains textes de Robert Howard sur Conan, on croirait aussi enfin tu peux remplacer les trucs par des Indiens, et enfin Star Wars c'est pareil. Ils jouent avec le code de la frontière, ouais. Et compagnie.
Et donc, aussi, ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, pour la chronique de Bonne Sœur.
Ma seule chronique. Hein.
Ouais, j'étais ta seule chronique. Donc, en fait, là aussi, notre héros, il va devoir faire face au massacre de sa famille, comme dans tous les bons westerns. Alors, moi, je suis désolé, mais pour moi, Walking Dead, c'est véritablement un western. Un western urbain, post-apocalyptique.
Urbain, ils sont toujours à la campagne.
Mais en tout cas, c'est un western. On y retrouve en tout cas tous les codes. Tout ce qui...
Sans le ballot de paille.
Sans le ballot de paille. Si, il y en a.
Ah si, il y en a.
Il y en a.
Bah, je suis convaincu.
Et maintenant, au lieu de scalper, on met les têtes sur des pics.
les têtes de qui?
Ah, non, ça, je ne le dirai pas.
Bon. Donc, un western urbain. Quoi.
Un western urbain.
Ah, ok.
Mais un vrai western.
Il faudra que vous définissiez urbain un jour.
On définira
on
urbain.
On fera une prochaine.
Ouais. De toute façon, on va se quitter là-dessus parce qu'on n'a plus de temps.
On est désolé.
Si, voilà.
Ah, excusez-nous. Hein. La prochaine fois, on fait une émission de 3 heures.
Donc, on vous dit au revoir.
Oui, on dit
au revoir. Et Nico, on te laisse le mot de la fin.
Eh ben, comme d'habitude, à tout à l'heure dans vos rêves.
Et on se quitte évidemment avec Tonight
toujours pareil, Tonight We Fly, Divine Comedy. Allez, salut.